Bonjour à toutes, bonjour à tous. À l'occasion de la semaine pour l'environnement, nous recevons cette semaine Benjamin Clouet. Bonjour Benjamin.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Vous êtes gérant de l'entreprise montpelliéraine Ecosec, une entreprise spécialisée dans la construction de toilettes sèches nouvelle génération. Et vous partez actuellement à la conquête du marché des toilettes publiques. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais avant d'en dire plus, je vous propose d'écouter un petit reportage tourné à l'atelier d'Ecosec, là où on fabrique ces fameuses toilettes situées à Prades-le-Lez. Ici, c'est votre collègue, ami, associé, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est Bernard en tout cas qui nous fait la visite. Là, on est face à la cabine Mada qui pourrait potentiellement remplacer les sanisettes Doco. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quel matériau elle est fabriquée ?
Elle est composée essentiellement de trois matériaux différents. On a de l'inox mer pour tout ce qui est porte, menuiserie métal, etc. On a du bois qui vient de Lozère, qui est un bois de Douglas. Donc c'est un bois qui a de très bonnes propriétés pour l'extérieur. Dernier composant, c'est du matériau composite. C'est un alliage de lin et de résine biosourcée qui nous permet d'avoir quelque chose de très écologique.
Et qui vient de ?
Qui vient de la Bretagne.
Oui, on est sur des matériaux locaux, c'est une volonté aussi, enfin plus ou moins locaux.
Et oui, effectivement, on essaye de travailler qu'avec du local.
Donc d'extérieur, quand on la regarde, elle est toute arrondie, plutôt sympa, plutôt moderne. Il y a un panneau solaire au-dessus, donc il sert à quoi le panneau solaire ?
C'est une cabine qui est autonome énergiquement. Donc voilà à quoi sert le panneau solaire. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'électronique embarquée dans la cabine.
Ouais. Justement, on va rentrer dedans pour regarder.
Ouais.
Donc on est dans la petite cabine, il y a des lumières toutes bleues, ça donne l'impression d'être dans un univers un peu de science-fiction. On est dans des toilettes sèches et pourtant il n'y a pas de sueur. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ?
Ah ben c'est tout simple, hein, c'est le principe de la gravité. Imagine que tu fais ce que tu as à faire sur un tapis incliné. Mm-hmm. Par gravité, les urines vont aller s'écouler dans un sens. Et lorsque tu as fini, ben, y a un petit moteur qui va faire que le tapis roulant va se mettre en route et va acheminer ton caca ailleurs.
D'accord, donc on a une séparation, c'est la base de vos toilettes. On a une séparation entre les urines et les matières fécales. Et les urines, elles vont où ?
Alors les urines, forcément, elles vont être collectées dans une sorte de circuit de canalisation. Nous, dans notre cas de figure, en général, on fait souvent des tranchées d'infiltration. Mais pas que, ça nous arrive aussi de faire de très grosses réserves, notamment quand on équipe des plages ou ce genre de choses.
Et donc les matières fécales, elles sont acheminées derrière, si j'ai bien compris. Ça nécessite une vidange tous les combien ?
Là, c'est pareil, ça dépend. Sur ce modèle-là, une vidange tous les mois, ça reste correct. Sur d'autres modèles, on peut faire des vidanges tous les 4 mois.
Le petit truc marron, c'est l'écran lumineux au-dessus des toilettes, donc avec des inscriptions qui défilent. J'attends que ça revienne, donc c'est écrit Ecosec. Et on peut lire « Bienvenue dans la Parisette ». Ah oui, la Parisette, on en parlera avec Benjamin en studio. Utilisateur 201, nous avons économisé 1809 litres d'eau. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une utilisation, l'utilisateur peut savoir combien de litres d'eau il a économisé.
Tout à fait.
Donc là, le but, c'est de sensibiliser les gens, évidemment, aux toilettes sèches, je suppose.
Le but, c'est que les gens utilisent la toilette et après l'avoir utilisée, se rendent compte que c'est une toilette sèche. On a vraiment envie de la démocratiser. Et...
C'est vrai que là, l'image, elle n'a rien à voir avec les toilettes sèches qu'on peut imaginer habituellement. On dirait des toilettes classiques. L'avantage, c'est qu'il n'y a aucun raccordement, c'est bien ça.
Avant d'être une toilette écologique, c'est aussi une toilette économique parce qu'effectivement, il n'y a aucun nécessaire de travaux de terrassement ou de raccordement à l'eau usée ou à l'eau potable. Il suffit juste de la poser et elle fonctionne. Donc oui, effectivement, elle est très économique.
Bah, tu vas où ?
Ah, je reviens, je vais faire un truc.
Non mais comment ça, tu vas faire un truc ?
Je vais faire un truc,
j'arrive. Bah, réponds, tu vas où ?
Bah allez, c'est compliqué,
dis-nous,
quoi.
Dis-nous.
Tu peux nous dire.
Réponds normal.
Qu'est-ce que tu vas faire ?
C'est très évident, quoi.
Bon, ok, je vais faire caca.
On est devant un tout autre modèle, donc c'est un container pour les chantiers. Tout autour, c'est une paroi végétalisée. Pourquoi ? À quoi ça sert ?
Alors là, ce qu'on a voulu faire, c'est permettre à n'importe quel utilisateur de ce container d'avoir la possibilité de prendre une douche, de manger, d'avoir un vestiaire, d'aller aux toilettes. Tout cela de façon totalement autonome. Du coup, il a fallu régler des problématiques de eau usée. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette eau usée de la douche et de l'urine collectée par les toilettes ? Où est-ce qu'on l'achemine ? Bon bref. Il nous est venu l'idée d'utiliser les parois végétalisées pour revaloriser cette eau usée, en fait.
D'accord. C'est quoi les plantes, justement, qui sont installées sur ces parois ?
On peut dire qu'elles sont vertes et qu'elles sont très gourmandes en azote,
ouais.
Parce qu'il y a énormément d'azote dans l'urine. On les a choisies plus pour leurs propriétés au niveau racinaire, etc., etc. Il y a les plantes, mais il y a aussi le substrat. Le substrat, c'est ce qu'on appelle de la sphaigne. Et effectivement, la sphaigne, elle a la caractéristique de pouvoir absorber jusqu'à 13 fois son poids en eau. Nous, ça nous arrange énormément, parce que du coup, c'est elle qui va faire tampon et qui va garder tous les nutriments dont ont besoin les plantes pour s'épanouir.
On peut aller voir un peu à l'intérieur ?
Oui, tout à fait.
Donc ça, c'est le local technique.
C'est ça.
Donc qu'est-ce qu'on voit ?
Alors, il y a le dos de la cabine de toilette avec le trône. Le bac de matière fécale va se trouver juste ici, en dessous.
Donc c'est pas un gros bac ?
Non,
c'est...
mais là, on est dans le cas de figure où il y a très très peu d'utilisation. Vu que ça va être un vestiaire pour 4 personnes, on peut estimer qu'il y aura vraiment des volumes tellement faibles que là, limite, la vidange se fera peut-être tous les ans. Après, juste à côté, on a le collecteur pour les urines.
Donc pareil, hein, un petit bac.
Ouais, un petit bac inox avec tout plein de tuyaux parce qu'il va collecter et les urines et les eaux de douche. Une fois que celui-ci aura atteint le niveau adéquat, cette pompe va réacheminer tout ça dans notre bâche d'eau usée.
Donc sur le toit,
c'est
du container.
Et du toit du container, ça redescend dans une pompe qui, elle, est beaucoup plus puissante. Elle est là pour faire les circuits d'irrigation. Et lorsqu'elle va se déclencher, ça va envoyer tout ça sur les parois végétalisées.
Donc là, on a des toilettes. Et là, c'est magique. Donc une petite douche, des étagères, des prises de courant pour charger les portables, c'est ça ?
C'est ça.
Et petit détail, elle vient d'où, l'eau de la douche ?
On a une réserve qui est sur le toit avec de l'eau potable. Mm-hmm. Et on en a une qui est plus petite, beaucoup plus petite, pour stocker temporairement les eaux usées et l'urine. L'eau potable, on l'achemine lorsque l'on vient déposer le conteneur sur le chantier. C'est à ce moment-là qu'on le remplit. Et du coup, ça permet d'avoir l'eau pour la douche. On a équipé la douche d'un chauffe-eau instantané, ce qui nous permet d'avoir de l'eau chaude.
La boucle est bouclée. Donc on l'entend dans ce reportage, vos toilettes sèches ont la particularité de fonctionner sans sciure et de séparer le pipi et le caca, pour rappeler les choses telles qu'elles sont. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle technique ?
Oui, alors ça... C'est un peu le constat qu'on avait fait au démarrage de l'entreprise, de vouloir développer les toilettes sèches pour un plus grand public. Aujourd'hui, c'est que c'est principalement dans les parcs naturels et dans les festivals que c'est utilisé. Les toilettes qui sont classiquement appelées à litière biométrisée, donc c'est les toilettes à sciure un peu classiques. Et cette séparation de flux permet plein de choses. La première, c'est qu'au niveau de l'utilisateur, quand il arrive, tout d'abord, cet utilisateur ne va pas voir l'utilisation précédente. Et ça, c'est quelque chose qui repousse énormément psychologiquement les gens. La deuxième chose, c'est de ne pas utiliser de sciure et de ne pas avoir à mettre la pelle dedans. Et donc ça, c'est autre chose qui est bien au niveau de l'utilisation. Au niveau de la gestion derrière, c'est extrêmement simplifié pour nous en tant que gestionnaire de ces toilettes-là, puisqu'on va récupérer d'un côté 95% des volumes qui sont un liquide, l'urine, qui est stérile. Donc il n'y a pas de pathogène dedans, on peut la réutiliser. Elle contient la majorité des nutriments, des engrais en fait, que le corps rejette. Donc on ne fait rien de plus que suivre un peu le fonctionnement naturel du corps, qui les a très bien séparés, les deux flux, et qui a isolé d'un autre côté les matières fécales, qui sont un tout petit volume, puisque ça représente à peine 15 litres une fois que c'est séché à l'année. Pour une personne et qui contiennent tous les pathogènes et qui ne sont pas très intéressants au niveau agronomique. Donc voilà.
Vous venez d'en parler un petit peu, donc vous réutilisez les urines en tant qu'engrais et fertilisant. Ça, c'est quelque chose que vous avez observé d'abord, je crois, quand vous faisiez des missions dans les ONG, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors à l'étranger, dans les pays en voie de développement, l'équivalent en engrais d'une famille de 5 personnes à l'année, c'est aux alentours de 35-40 euros. Alors pour un Européen, ça paraîtrait pas grand-chose. Dans certains pays, avec un salaire mensuel du père de famille de 50 dollars, eh ben, c'est presque un mois de salaire économisé quand on arrive à réutiliser toutes les urines dans le maraîchage de la famille. Donc je viens de ce monde-là et de retour en France, eh ben, je trouvais ça en plus d'une symbolique assez intéressante de dire qu'au lieu de toujours faire la leçon et d'apporter des solutions aux pays en voie de développement, bah là ce serait les pays en voie de développement qui ramèneraient leur technologie un peu low cost mais très pleine de sens dans les pays soi-disant développés, quoi. Donc on est très intéressé de développer de la valorisation des urines ici avec un cadre réglementaire qui est extrêmement contraignant. et des phobies psychologiques. En fait, dans l'acceptation globale, il n'y a pas de problème de mettre des effluents agricoles de porcs qui sont bourrés d'antibiotiques et d'hormones. En revanche, réutiliser nos urines, oulala. En fait, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, je trouve, psychologiquement, que l'humain c'est complètement détaché du on n'est plus des mammifères, quoi. On est au-dessus sur cette planète. Et donc, on essaye de remettre l'être humain dans ce cycle naturel de la matière organique. Et c'est pas gagné, mais comme il y a tout à faire, c'est passionnant comme sujet.
Et c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser à cette question des engrais, parce que je crois qu'on a une crise qui s'annonce au niveau du phosphate.
Tout à fait. Dans les trois engrais principaux qui sont utilisés dans l'agriculture, l'azote, le phosphate, le potassium, c'est le phosphate qui pose le plus de problèmes puisqu'il est non renouvelable et qui vient, 80% des réserves mondiales viennent du Maroc. Elles sont extraites dans des mines qui sont au Sahara occidental. Et y a des études qui annoncent la fin du phosphate, en tout cas le pic du phosphate de production en 2030. C'est demain, quoi. Si y a une restriction d'approvisionnement en phosphate, c'est toute l'agriculture industrielle mondiale qui est à genoux. Et avec, on s'imagine, les cataclysmes que ça peut provoquer. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on en parle assez peu. Seuls les instituts d'agronomie travaillent dessus. Et si on arrivait à récupérer 100% des phosphates des urines, on pourrait réduire de près de la moitié nos importations en phosphate en France. Ce qui nous permettrait, c'est derrière, c'est une question géopolitique, de résilience des villes, et ça peut aller très loin, quoi.
Dans une précédente conversation, vous m'aviez aussi parlé de la question de l'azote, du cycle de l'azote, qui est complètement absurde en soi. On va le chercher dans l'air. Enfin, est-ce que vous pourriez en reparler hein?
Alors, pour essayer de résumer le cycle de l'azote, en gros, on va dépenser des quantités d'énergie énormes pour transformer l'azote de l'air en azote qui est assimilable par les plantes, donc en forme solide, qu'on va épandre dans les champs. Il y a une quantité de perte énorme qui part dans les nappes phréatiques et qui va amener une surabondance d'azote dans les nappes phréatiques et les milieux aquatiques. Et derrière, nous, ce qu'on récupère, donc on va rejeter de l'azote qui est sous forme liquide diluée dans notre urine, qui va dans la station d'épuration. Donc pour un petit pipi, on va faire une chasse de 10 litres avec la dépense d'énergie, de potabilisation de l'eau et d'évacuation de cette eau un peu avec à peine de pipi dedans. Il faut savoir qu'en station d'épuration, 80% de l'azote qui arrive dans la station, ça vient des urines des hommes. Et ça représente seulement 1% des volumes. Et ce traitement de l'azote en usine, donc on a vu qu'à l'origine, on va dépenser de l'énergie pour faire transformer l'azote gazeux en azote solide. Et là, on va dépenser une énergie phénoménale pour transformer l'azote qui est sous forme liquide en azote de l'air. Donc on a, si vous voulez, au lieu de réutiliser ça dans un cycle vertueux, on a dépensé au début et à la fin une quantité d'énergie considérable. Donc le traitement de l'azote en station d'épuration, c'est la moitié du coût d'exploitation de la station. Et comme la station n'arrive pas à traiter tout cet azote, elle en rejette énormément, disons 40% de l'azote en moyenne en France, repart dans les milieux aquatiques. Avec ce qui se produit, c'est de l'eutrophisation. En fait, quand l'eau a trop de nutriments, il y a un développement d'algues qui se crée et qui va complètement asphyxier le milieu aquatique. Donc, on a une série de problèmes avec ce tout à l'égout et avec ce système de tout avec la chasse d'eau qui avait des vertus sanitaires indéniables au moment où ça a été créé. Aujourd'hui, il faut tourner la page de ça. Et comme tout le reste des pollutions, de tous les déchets. Quand on isole un déchet, c'est beaucoup plus facile à traiter. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, d'isoler les eaux grises, les urines et les matières fécales. Et à ce moment-là, on peut les valoriser très facilement et les traiter à bien moindre coût.
Je sais que vous avez pour ambition avec EcoSec donc de fonctionner dans une économie circulaire, en fait. Vous en êtes où, justement, dans cette possibilité d'alimenter l'agriculture périurbaine ?
Alors, c'est une question qui nous prendra des années. Nous, on en est qu'aux prémices.
Peut préciser que parmi l'équipe d'EcoSec, il y a Vincent qui fait des recherches avec l'IRSTEA, c'est ça ?
Tout à fait. C'est presque on consacre entre un quart et un tiers de notre budget à la recherche sur la valorisation des urines. On est en partenariat avec l'IRSTEA, qui est l'ancien Semagref. Ils sont situés à Agropolis et ils sont très intéressés sur ces questions-là, puisque eux travaillent notamment sur toutes les formes d'irrigation économe en eau et notamment la valorisation des eaux usées traitées, donc en sortie de station d'épuration. Et avec eux, on a des plateformes de test, notamment sur les résidus pharmaceutiques, parce que c'est quelque chose qui psychologiquement fait un peu peur à tout le monde. Derrière, sur les pathogènes, sur le cycle de l'azote et sur la salinité des sols. Derrière, on étudie aussi certaines roches volcaniques qui ont des propriétés assez incroyables de captage d'odeur et du nitrate dans les urines et qui pourraient bien nous aider dans nos recherches. La problématique, elle est clairement de comment on arrive à transporter ces nutriments. On est sur une mine de nutriments organiques en centre-ville, comment on arrive à les transporter vers de l'agriculture périurbaine. Parce que si vous voulez, comme il y a 95% d'eau dans l'urine, dès qu'on a fait 5 km, on a perdu en essence ce qu'on a gagné en engrais. Donc c'est toutes ces problématiques-là, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et pouvoir, il y a dans certains cas, la valoriser directement juste à côté de la cabine, et dans d'autres cas, la transporter un peu plus loin. Dans d'autres cas, chaque situation a un peu sa forme de valorisation, et on essaye de pouvoir répondre à toutes les situations. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut plein de formes de valorisation.
Et vous avez lancé, je crois, à l'occasion de festivals, ou en tout cas de lieux où vous aviez installé des cabines, un petit outil de sensibilisation, UriBoost. Vous pouvez peut-être nous en parler aussi.
Tout à fait. Alors, on est très fiers de ce truc-là. C'est la première fois en Europe que ça apparaît de cette taille-là. Donc, dans les festivals, on a un container qu'on a aménagé pour mettre des cabines de toilettes. Et à côté, on a mis un réacteur à struvite. Alors, la struvite, c'est en fait quand on injecte du magnésium dans l'urine, ça fait précipiter le phosphate. Et comme c'est précipité, c'est facile à filtrer, à sécher. Et les gens, une fois qu'ils sont allés aux toilettes, quand ils sortent, on leur donne un petit sachet qui contient de la poudre, qui est de la struvite et qui est l'équivalent en engrais de ce qu'ils viennent d'uriner. Et alors ça, c'est vraiment très... Enfin, en termes de sensibilisation, c'est ultra puissant. Et puis derrière, on a énormément de sensibilisation autour de ces questions-là, auxquelles je viens de parler. Et donc, ça marche très bien et on l'emmène. Là, on l'emmène au Marathon de Paris. Ensuite, on sera sûrement au Printemps de Bourges. On est à Wheel of Green à Paris. Peut-être le Hellfest. Enfin, voilà. Donc, on l'emmène un peu partout en France. Et ça a vraiment un fort pouvoir parce qu'en plus de ne pas avoir dépensé d'eau, en direct, les gens comprennent que leur urine c'est de l'or jaune quoi.
J'ai annoncé en introduction donc vous étiez également sur le marché des toilettes publiques. Vous répondez actuellement à un appel d'offres à Paris, donc c'est les Parisettes, c'est ça?
C'est cela, on va le sortir là, c'est très prochainement, notre dossier va arriver. En fait, Paris a fait un appel à projet en mettant en ligne 10 millions de leur budget de la ville, en disant proposer des projets, ensuite les internautes voter pour ces projets et nous vous mettons à disposition ce budget. Est arrivé en premier choix des internautes s'occuper des sans-abri et en deuxième choix... mettre des cabines écologiques de toilettes dans Paris. Donc on est très très motivés pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. Je pense qu'on est bien placés et on espère bien qu'en 2017, il y aura nos premières cabines éco-sec dans la capitale.
D'accord, parce que ce que vous mettez en avant, donc on a parlé d'écologie, mais ce que vous mettez en avant, c'est que vos toilettes, elles sont plus jolies, ça je l'ai vu, plus pratiques parce qu'il n'y a pas de raccordement, plus économiques, ça coûte moins cher que des toilettes dessinisettes type Deco. Et vous m'aviez parlé aussi, elles sentent moins mauvais parce que oui, vous avez un système de VMC un peu particulier, je crois.
Alors, pour reprendre un peu du début, nous, notre credo, c'est de dire l'écologie ne doit pas être punitive. Ça ne doit pas être un retour à la bougie et on ne s'adresse pas à des gens qui sont ultra engagés, quoi. C'est-à-dire notre but, pour arriver, passer à l'échelle et arriver chez les urbains, il faut qu'on ait quelqu'un qui vraiment s'en fout de l'écologie, rentre dans la cabine et dise « mais elle est plutôt plus classe, plus design, il n'y avait pas d'odeur, elle était plus propre, c'est pratique ». Et qu'en sortant, en plus, ils disent « Ah, en plus, c'est écologique ». Et qu'au niveau de la mairie, ils disent « Ah, mais c'est moins cher, il n'y a pas de raccordement, c'est déplaçable ». Et en plus, ils valorisent les urines, il y a un peu de com' à faire dessus. Et donc, en mettant tout ça, on arrive petit à petit à passer à l'échelle.
Et à Montpellier, justement, on en est où?
Alors à Montpellier, ça fait maintenant 4 ans qu'ils nous connaissent, qu'on est en discussion avec eux. Ils étaient ils nous ont autorisé à faire un test au zoo il y a maintenant 2 ans. Et on espère bien rentrer un jour. Aujourd'hui, c'est pas forcément d'actualité, mais on est en discussion avec eux, donc on n'a pas perdu espoir. En revanche, on a vendu 8 cabines à Toulouse. Et comme je vous disais, on est très motivés pour se positionner sur Paris. À côté de ça, on en est à notre 40e cabine. Donc je pense que rapidement, on arrivera à en poser une sur Montpellier, quoi, même si ce n'est pas fait aujourd'hui. On est présent sur la ZAT. On fera toutes les cabines de toilettes de la ZAT qui a lieu du 21 et 22 avril. Et puis derrière, comme je vous disais, on a beaucoup de projets compostage avec eux sur le petit bar, donc du compostage en pied d'immeuble, petit bar, Mausson et Grisette.
C'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais vous avez aussi tout un pôle compost. Donc pour ceux qui souhaitent tester les toilettes éco-sec, donc rendez-vous à l'EAI pour la prochaine ZAT, et je crois qu'il y a un rendez-vous dans pas longtemps non plus.
Voilà, tout à fait. Dans très peu de temps, à 10h30, à la Fac de Sciences, on fait une formation compostage dans le cadre de la Semaine de l'Environnement. Et le mercredi 5 à 16h30, il y aura une distribution de compost qui a été produit au Petit Bar avec l'association La Main Verte. Et donc, c'est 16h30, mercredi 5, au Petit Bar.
Merci beaucoup Benjamin, et en espérant voir les toilettes éco-sec bientôt dans les rues de Montpellier.
Merci à vous.
Au revoir.
Je ne me souviens plus de ce que j'ai mangé. Wow, mais je me suis rendu à l'évidence, je suis constipé. Wow, et ça donne ça. Une bonne idée.